écoutez Matin Première, il est 7h20, c'est l'œil de retrouver l'œil international de Pierre Marlaise sur l'actualité internationale. Bonjour Pierre.
Bonjour François.
Et vous posez ce matin votre œil dans le rétroviseur, Pierre, puisqu'il y a tout juste un an, aux États-Unis, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, lançait la fameuse procédure de destitution, l'impeachment contre Donald Trump. On se disait alors, il y a un an, que ce serait l'un des éléments importants de la campagne présidentielle. On n'imaginait pas, absolument pas, Pierre, combien les thèmes allaient en un an se bousculer dans cette campagne présidentielle américaine.
Exactement, François. Et ce matin, je vous propose d'illustrer combien en politique, comme dans d'autres domaines, sans doute, il est extrêmement périlleux d'être prospectif car l'avenir est décidément incertain. Alors retournons un an en arrière. Ça, c'est un peu plus facile, encore que on oublie vite le contexte, vous l'avez rappelé, tellement les choses changent vite. Alors en septembre 2019, donc, la procédure d'impeachment est enclenchée par la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi. Ça, on s'en souvient, mais on a sans doute un petit peu oublié la raison. Pour faire simple, à l'époque, on soupçonnait Donald Trump d'avoir fait pression sur les autorités ukrainiennes pour qu'elles déclenchent une action en justice contre le fils de Joe Biden, qui a des activités commerciales en Ukraine. Et c'était d'autant plus troublant que Donald Trump avait précisément suspendu son aide militaire à l'Ukraine, ce qui pouvait donc être interprété comme du chantage vis-à-vis de ce pays. Alors, Trump cherchant à nuire à Biden, rétrospectivement, on peut se dire que si tel était bien le cas, le président avait visé juste, puisque c'est bien Biden qui gagnera les primaires et ce sera donc son adversaire. Quant à l'impeachment, eh bien Nancy Pelosi, elle était réticente à le lancer parce qu'elle savait que la majorité républicaine du Sénat allait l'empêcher. Reste une question, ces accusations publiques ont-elles réellement nui à Donald Trump? Ce n'est pas évident parce que les préoccupations des citoyens américains sont sans doute ailleurs.
Oui, traditionnellement, le plus important dans la campagne présidentielle américaine, c'est l'économie, l'emploi. Au printemps dernier, on s'attendait à ce que ce soit le cœur de cette campagne, avant que le Covid, évidemment, ne vienne tout bouleverser.
Et oui, et ne vienne d'un coup balayer le bilan économique du président. On sait combien l'équilibre entre la nécessité des mesures sanitaires et le besoin de faire tourner l'économie est difficile à trouver, combien elle peut diviser l'opinion, on l'éprouve en ce moment même en Belgique et chez nos voisins français. Mais ce débat aux États-Unis, il a été exacerbé d'une manière absolument incomparable par rapport à chez nous, parce que le président a fait figure de corona-sceptique en chef, en quelque sorte, dénonçant vigoureusement les mesures de confinement décidées par des gouverneurs démocrates et faisant flèche de tout bois contre ce qu'il appelle le virus chinois. Nul doute que Donald Trump y a laissé des plumes dans une partie de l'opinion. Les sondages montrent clairement que Biden est jugé beaucoup plus crédible que lui pour gérer une crise sanitaire qui a tout de même fait 200 000 morts, mais le président garde de nombreux partisans dans un pays où la protection sociale est beaucoup plus faible que chez nous et où, Covid ou pas, la réussite individuelle par le travail s'est ancrée profondément dans les mentalités.
Bon, Pierre, je résume. En un an, aux États-Unis, on aura eu l'impeachment, la crise sanitaire, et puis, autre surprise, la question du racisme qui s'est aussi invitée dans la campagne.
Et oui, les thèmes se sont décidément bousculés. Ce sont les images d'une intervention policière sur un trottoir qui ont déclenché une vague d'indignation qui a parfois dégénéré en émeute. La mort de George Floyd, c'était le 25 mai à Minneapolis, a ravivé d'une façon brûlante la question raciale dans un pays qui n'en a pas fini avec ses vieux démons. La réponse de Donald Trump a été de se placer du côté de la défense de la loi et de l'ordre. Il parle ainsi à son électorat le plus radical, sachant très bien que quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, le vote noir est acquis à Joe Biden. Alors sur la question raciale, il agit un peu comme sur la question de la santé. Il galvanise ses partisans au risque de diviser profondément le pays entre les pros et les anti. À la présidentielle en France, on a coutume de dire que l'élection, elle se gagne au centre, que ce sont les modérés du centre-droit ou du centre-gauche qu'il faut convaincre pour l'emporter. Eh bien Donald Trump, lui, suit une stratégie complètement opposé, c'est celle de la transgression pour motiver ses électeurs à aller voter.
Ouais, et on se souvient de ce tweet qui va rester célèbre, Law and Order, c'est ce qu'il avait tweeté en pleine pré-guerre civile dans certaines villes aux États-Unis en tout cas. C'est cette même stratégie qui est à l'œuvre pour le nouveau coup de théâtre de cette campagne qu'on est en train de vivre là maintenant ces derniers jours, nommé à la Cour suprême un successeur à la juge Ginsburg.
Oui, elle est décédée vendredi dernier à l'âge de 87 ans. Elle faisait partie des 4 juges progressistes de la Cour suprême qui en compte 9. La Cour suprême des États-Unis a un rôle fondamental et ses membres sont nommés à vie par le Sénat, un Sénat dominé par les Républicains, on le sait, avec 53 sièges sur 100. Voilà donc une occasion d'or pour le président de permettre à la Cour suprême d'être largement dominée par des juges conservateurs et c'est fondamental parce que c'est elle qui fait évoluer la loi sur les dossiers hautement sensibles comme la peine de mort, le mariage homosexuel ou l'avortement. Dès demain, Donald Trump devrait annoncer sa candidate. On cite beaucoup la fervente catholique Amy Barrett, mère de 7 enfants. Il est trop content d'avoir ainsi l'opportunité de mobiliser l'électorat traditionnaliste et religieux. Mais attention, que l'arme est aussi à double tranchant, car elle permet aux démocrates, eux aussi, de mobiliser leur camp pour tenter d'empêcher une telle nomination avant l'entrée en fonction du nouveau président, même si leur combat s'annonce difficile.
Bon, on vient de retracer assez vite, hein, parce qu'on aurait pu rentrer plus dans les détails. Un an de débat aux États-Unis à l'approche de cette élection présidentielle. Conclusion, Pierre, une campagne présidentielle américaine, c'est tout sauf un fleuve tranquille.
Avec ce qu'on vient d'entendre, c'est frappant. Ici, c'est combien un thème a chassé un autre de manière totalement imprévisible. Visible pour les deux candidats. L'arrivée du Covid, le meurtre de George Floyd, puis le décès de la juge Ginsburg. Voilà trois événements que les équipes de campagne n'ont pas pu anticiper. Il y a aussi la question climatique, d'ailleurs de plus en plus sensible pour une partie des électeurs. Alors, à qui tout cela profitera-t-il ? Il reste à présent moins de 40 jours pour être fixé.
Oui, les élections américaines, c'est effectivement dans moins de 40 jours.
39, très exactement.
La première sera sur le pont, bien sûr, pour vous faire vivre tout cela en direct. Merci beaucoup, Pierre Marlet, pour cette année de présidentielle américaine chahutée. On l'a compris, 7h26. Merci d'écouter Matin Première. La suite, c'est...